Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, comme toujours, des histoires, des contes, des blagues, des légendes, des nouvelles, des brèves et des longues. Mais il y a aussi compte à rebours comme un compte à rebours. Hein? Et le plus impressionnant des comptes à rebours n'est-il pas le compte à rebours que nous vivons tous jusqu'à notre propre fin? Haha. Et oui, des histoires aujourd'hui, une fois de plus, sur la mort. Pourquoi? Eh bien, il se trouve que j'ai participé à une rencontre sur l'accompagnement de fin de vie. Et dans ce cadre-là, il y avait des ateliers très enrichissants. Et dans ce cadre-là, j'ai raconté quelques histoires, des contes de la mort joyeuse. Je me demande qui c'est qui a eu l'idée de ce titre. Parce que franchement, hein, mort joyeuse, est-ce que c'est un simple oxymore pour attirer le public ou une réalité possible, voire un paradoxe salvateur? Mort joyeuse, on a du mal à l'accepter. Ceci dit, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on peut rire de la mort, certes, certes. Comme tiens, allez, allons-y tout de suite. Comme dans cette histoire traditionnelle de par ici, hein, de la région, on va dire, qui nous parle d'un fossoyeur qui n'avait jamais peur. Noir de peau, noir de poil, le visage taillé à la serpe fendue de lèvres fines qui semblaient toujours sourire et deux yeux, tantôt braise, tantôt charbon, il s'appelait Tsikano. Tsikano, le fossoyeur. Tsikano, le tumbalair, comme on disait autrefois. Moi, je n'ai jamais peur. Ainsi parlait Tsikano, le fossoyeur. Moi, je peux me promener la nuit dans un cimetière, voir des feux follets, même un squelette tout entier se dresser devant moi. Je ne bronche pas. Moi, je n'ai jamais peur. Voilà comment il parlait Tsikano, le fossoyeur. Surtout le soir au bistrot, après quelques verres avec ses amis lorsqu'ils discutaient. Tellement bien qu'un jour, qu'il n'est pas là, ses amis discutent et disent « Mais on ne pourrait pas lui faire une blague à ce fossoyeur qui dit n'avoir jamais peur. Moi, j'ai une idée, dit l'un d'entre eux. Je suis prêt à me cacher dans un cercueil. Vous le porteriez à Tsikano et au moment où il procéderait à l'inhumation proprement dite, je me dresserai de tout mon long et là, on verra s'il n'a pas peur. Oh oui !» Ils étaient contents de leur blague, ils l'ont manigancé et ils ont fini par la réaliser. Un soir, entre chien et loup, ils sont arrivés en portant un cercueil sur l'épaule en disant « C'est un vieux mendiant, sans famille, sans personne qui est mort. Tsikano, il te faut bien l'enterrer. »« Pas de problème, dit le fossoyeur. J'ai un trou d'avance, ça tombe bien. » Posez-le là, je m'en occupe. Et à tout à l'heure au bistrot. Les autres, ils seraient bien restés là pour voir ce qui se passait. Pourquoi pas même se planquer derrière un buisson, mais fallait surtout pas éveiller les soupçons. Alors, ils sont rentrés au bistrot et ils l'ont attendu. Et Tsikano, il en met du temps à venir. Eh oui, il en met du temps à venir, qu'est-ce qu'il fabrique? Mais quand même, il a fini par arriver. Et là, Au lieu de faire, comme d'habitude, le crochet par le comptoir pour aller se chercher un verre, non. Il fonce tout droit vers les compères qui sont là à le regarder et lui, debout, les regarde dans les yeux et leur dit « Vous, j'ai quelque chose à vous dire quand même. La prochaine fois que vous m'amenez un mort, faites bien attention qu'il soit tout à fait mort parce que celui-là, j'ai eu toutes les peines du monde à l'achever à coups de pelle. » Et oui, on peut rire de la mort, mais en fait surtout celle des autres. Pour soi-même, c'est plus délicat. Rappelez-vous ce que disait Nasreddin à ceux qui étaient venus le voir pour connaître. Bon, il y avait un enterrement qui se préparait, et donc des membres de la famille étaient venus le voir, parce que Nasreddin, quand même, a une certaine aura de sagesse, et il voulait savoir la place la plus favorable. Donc, on porte le cercueil, oui, mais est-ce qu'il vaut mieux se mettre devant, derrière, à droite, à gauche, hé. Et là, Nasreddin a dit « Écoutez, mes amis, vous devez savoir une chose. Vous pouvez vous mettre où vous voulez. Devant, derrière, sur les côtés. La seule place qui ne soit pas favorable, c'est au milieu. Dedans. » Remarquez, si on veut être lucide, notre propre enterrement a au moins un avantage. C'est que c'est une cérémonie où nous n'avons aucun effort à faire pour y participer. On n'a pas un costume à choisir, ni rien à se tracasser. Sans bouger d'un pouce, on est le clou du spectacle. Bon, mais si la peur est là, que faire ? Que faire ? Que faire ? On peut essayer de combattre la mort. Pourquoi pas faire un procès ? Moi, j'avais pensé un temps faire un procès à la mort. Et j'ai cherché une raison, et tout ce que j'ai trouvé, c'est faux et usage de faux. Bon, ça peut le faire. Mais ça semble peu probable que l'on gagne. Peut-être la fuite ? Eh oui, la fuite comme cet homme qui vivait autrefois à Bagdad. Il marche dans les rues. C'était un jour de grande foi, il y avait du monde partout, mais lui, un peu plus loin, là-bas, il remarque, oui, pas de doute, c'est la mort. La mort qui tourne la tête, le regarde. Et le regarde avec une insistance qui ne lui a laissé aucun doute. La mort venait le prendre. Alors, et il a dit, je ne vais pas rester ici, à Bagdad, me faire attraper. Il a sellé son meilleur cheval et il est parti au galop. Il a galopé l'homme. On ne sait pas comment il a pu faire, parce que ce que raconte l'histoire, c'est qu'il a fini par arriver à Samarcande. Bon, pour ceux qui connaissent pas bien la géographie du Moyen-Orient, entre Bagdad, qui est plutôt du côté de l'Irak, et Samarcande, qui se situe, on peut dire, presque au centre de l'Afghanistan, il y a une distance considérable. Eh bien, il a galopé tant qu'il est arrivé à Samarcande, et arrivé à Samarcande, il a soufflé, persuadé, enfin, d'avoir semé la mort. D'avoir perdu la mort, oui, semer la mort, non pas dans le sens du destructeur, mais de l'avoir fui, de l'avoir évité. Et pourtant, le soir, il est dans sa chambre, la porte s'ouvre, la mort est là. Alors, il lui dit, mais tu viens me prendre ? Non, mais comment ça se fait ? Je t'ai vu à Bagdad et à ton regard, j'ai vu que tu me prévenais qu'il me fallait m'enfuir.
Je ne préviens jamais personne, dit la mort. Non, si je t'ai regardé l'autre jour à Bagdad, c'est parce que je savais déjà que je devais te prendre ce soir à Samarcande. Et je m'étonnais que tu puisses être encore à Bagdad.
Et oui, ça a mal fini pour lui aussi. Et rappelez-vous Catherine de Médicis, peut-être vous connaissez son aventure. Elle avait un astrologue comme Ruggieri, qui était un homme qui lisait dans les astres tout un tas de choses. On ne sait comment, en tout cas, il avait du succès auprès des grands de ce monde de l'époque à la cour. Et Catherine de Médicis écoutait beaucoup son astrologue qui lui a dit, comme prédiction, qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Ah, facile. À partir de ce jour-là, elle a tout fait pour éviter Saint-Germain. Bon, il y avait Saint-Germain-des-Prés, il y avait Saint-Germain-en-Laye, il y en avait sûrement d'autres. Elle les a évités. Elle ne s'est même plus rendue dans certaines de ses demeures qui étaient trop proches de Saint-Germain. Et dès qu'elle se déplaçait dans n'importe quelle région de France, elle se renseignait pour savoir s'il n'y avait pas un Saint-Germain sur sa route. Et lorsqu'il y en avait un, elle le contournait même au prix de détours complexes. Cette dame a vécu ainsi, puis elle a fini quand même un jour par tomber malade, et tellement malade que, eh bien, on lui a envoyé un prêtre qui est venu à son chevet. Elle l'a regardé et lui a dit « Mais comment vous appelez-vous, monsieur ?» Et lui, il a dit « Julien de Saint-Germain ». Oui, la fuite est inutile. S'il y a un mot qui s'applique bien à la situation, c'est l'inéluctabilité. Inéluctable. Vous serez mort dans une heure. Rappelez-vous l'histoire de Habib le marchand que j'ai racontée à la dernière mission, si vous êtes des fidèles auditeurs. Il a fallu que le sage lui annonce sa fin imminente pour que Habib ouvre enfin ses yeux sur la réalité qui lâche le petit homme inquiet de mourir, entre autres, pour embrasser l'esprit, qu'il meure à lui-même avant de mourir, comme disent les mystiques. Tiens, écoutons ce que disait Rilke. Le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. Eh oui, soyons lucides, observons. Souvent, nous considérons la vie comme une succession de grandes choses à accomplir. On ne sait pas trop ce qu'elles sont et on ne sait pas trop si on les accomplit vraiment. Et la vie quotidienne comme une suite d'actes insignifiants, de petits tracas, avec quand même l'embêtement ultime que constitue la mort. Et s'il n'y avait au fond que deux grandes choses, la mort d'abord, comme un axe central de la roue de la vie, et la vie quotidienne, cette suite d'actes et de tracas qui est finalement notre vraie relation au réel. C'est vrai qu'enfermés par la peur, nous pouvons vivre cette relation comme une entité en butte à l'adversité du monde extérieur qui, sans sa fin en plus inéluctable, et de là naît une panique incommensurable et aussi incommunicable et qui nous amène souvent à plonger dans la frénésie pour oublier. On mange, on boit, on chante, on danse, on travaille, on se bat. La roue de la vie tourne, tourne, et nous tournons avec. Mais si nous osons laisser venir un peu de lumière, un peu d'ouverture, un brin de sensibilité, alors cette vie quotidienne s'illumine d'elle-même, devient voie sacrée, espace même de tous les accomplissements. Qu'est-ce que c'est un accomplissement ? Ben, par exemple, réaliser, enfin, que l'entité apeurée qui se sent emportée dans la roue de la vie, qui tourne, elle n'a pas d'autre consistance, cette entité-là, que la chaîne brumeuse de ses pensées, de ses espoirs, de ses peurs. L'intelligence même qui appréhende cela est plus vaste que les montagnes russes de notre samsara personnel. Elle est la roue de la vie tout entière, son mouvement, tout comme son immobilité,
en son axe souverain, la mort. Ainsi, il n'y aurait pas la vie ou la mort, ou la vie puis la mort, mais bel et bien la vie-mort comme un tout. Et l'espace dans lequel se déploie cette vie-mort est enfin reconnu comme notre esprit originel, le visage d'avant notre naissance. Mourir peut-être est un chemin de joie. Mais ce n'est pas facile de s'en convaincre. Et aussi, il peut y avoir à partir de là d'autres peurs. S'il y a un après, si mourir ce n'est pas éteindre la lumière, mais en quelque sorte l'allumer vraiment, et l'après ce sera quoi ? Enfer ou paradis ?
出た東が北から南に西東に響き渡れと声限り歌いましたる数々を時間来るまで勤めましょう
Enfer ou paradis ? Partons au Japon pour éclaircir cette question. Allons demander à Akuin, un célèbre maître zen. Akuin, il recevait dans son temple un militaire, un samouraï, un général qui avait accompli tout un tas d'exploits, qui avait mené des conquêtes, des guerres, qui avait subi des défaites, mais qui était toujours là, vivant, et qui s'interrogeait. Il s'est assis devant le maître et lui a dit « Maître, j'aimerais savoir, est-ce que l'enfer et le paradis existent vraiment ?» Akuin l'a regardé, bien dans les yeux, Il lui a dit, c'est toi un boucher de général, un vaurien qui n'a fait que trancher des têtes, qui me pose cette question stupide. Le général n'a pas apprécié sa mine, ses renfrocs miniers, mais Akuin a insisté, tu n'es qu'un bon à rien, comment pourrais-je expliquer quoi que ce soit à un abruti à la face de brute comme toi ? Là, le général a senti quelque chose bouillonner en lui, mais Akuin, le maître zen, a continué. « Tu es un misérable, obtus et sans compréhension. Je pourrais t'expliquer de la meilleure façon qui soit la réalité que tu ne comprendrais de toute façon jamais rien. Et puis tu as les mains tachées de sang. Tu es impropre à comprendre et à évoluer. » Alors là, le général a fini par se lever et a proféré quelques menaces. Vous allez continuer longtemps à m'insulter comme ça ? Mais bien sûr, a dit Akuin. Et là, le général a sorti son sabre et il s'est avancé vers Akuin. Akuin, lui, il est parti sur le côté. Le général est allé aussi vers le côté et il a levé son sabre. Et Akuin continuait à le piquer, à l'insulter. Et au moment même où le général allait abattre son sabre pour trancher le maître zen en deux, celui-ci lui a dit « Là, à cet endroit précis, s'ouvrent les portes de l'enfer. » Alors le général a marqué une hésitation. Il a rabaissé son sabre, l'a remis en son fourreau et Akuin l'a dit là, à cet endroit précis, s'ouvrent les portes du paradis.
curro la nuit s'accapara, tu risulet m'encantara. Curro la nuit s'accapara, tu risulet m'encantara. Punto d'albo, tinto d'ambre, pel de salvio, parpaiol. Punto d'albo, tinto d'ambre, che mi farà sveni fol. Punto d'albo, tinto d'ambre, pel de salvio, parpaiol. Punto d'albo, tinto d'ambre, che mi farà sveni fol. Che mi farà sveni fol. Curro l'ulunte tu cara, la mesulio se scaufara. Curro l'ulunte tu cara, la mesulio se scaufara. Punto d'albo, tinto d'ambre, pel de rusco, tricco drudo. Punto d'albo, tinto d'ambre, ma de braso, pel de fioc. Punto d'albo, tinto d'ambre, pel de rusco, tricco drudo. Punto d'albo, tinto d'ambre, ma de braso, pel de fioc. Ma de braso pel de fio. Curro lu fioc te tu cara, di la danzo te butara. Curro lu fioc te tu cara, di la danzo te butara. Curro lu fioc de tu cara, di la danzo te butara. Punto d'albo, tinto d'ambre, mangio buco, cico pupo. Punto d'albo, tinto d'ambre, un giù che cumenzo pla. Punto d'albo, tinto d'ambre, mangio buco, cico pupo. Punto d'albo, tinto d'ambre, un giù che cumenzo pla. Un giù che cumenzo pla. Wow. D'albo tinto d'ambre, ma de braso pel de fioc. Punto d'albo tinto d'ambre, pel de salvio parpaiol. Punto d'albo tinto d'ambre, mangio buco, cicco pupo. Punto d'albo tinto d'ambre, un giù che cumenso pla.
Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui, mais le compte à rebours pour chacun continue, ne l'oubliez pas. Laurent Cavalier nous l'a rappelé aussi en disant que c'était un bon jour qui commençait bien, mais tant mieux. Oui, vous l'avez reconnu, Laurent Cavalier qui a chanté, et les musiques que nous avons entendues pendant ces quelques histoires sur la mort, bien, c'était Ravel, une sonate violoncelle piano ou violon, violoncelle, piano. Et puis après des musiques carrément venues du Japon et notamment du Koto. Eh bien, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Marco, je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Yeah.